SBS Radio.
Les grands titres de l'actualité de ce mardi 17 juillet. La France championne du monde de football. 20 ans plus tard, les Bleus ont encore une fois marqué l'histoire. Environ 300 000 personnes étaient au rendez-vous pour voir l'équipe de France et le trophée défiler ce lundi sur les Champs-Élysées. Et puis Donald Trump refuse de condamner Moscou dans l'ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Il s'est montré particulièrement conciliant avec son homologue Vladimir Poutine, qu'il a rencontré ce lundi ou mardi matin ici en Australie, à Helsinki, pour un sommet historique. En Australie, le gouvernement fédéral se défend sur ses politiques d'immigration après la détention très controversée d'un Néo-Zélandais de 17 ans. La Nouvelle-Zélande accuse l'Australie d'avoir violé les conventions internationales relatives aux droits de l'enfant. Ils ont été acclamés en champions du monde. L'équipe des Bleus a défilé ce lundi, enfin mardi matin, ici en Australie, sur les Champs-Élysées. À bord d'un bus à Impérial, environ 300 000 supporters sont venus les applaudir. Une foule compacte décrit une traînée bleu-blanc-rouge dans le ciel dessinée par la patrouille de France. Les footballeurs sont rentrés de Russie à bord d'un avion spécialement affrété. Un avion piloté par Guillaume Périchès, c'est le nom du commandant de bord qui a eu la chance de tenir la célèbre Coupe du Monde. Entre ses mains, on écoute son témoignage.
C'est quelque chose d'emblématique, évidemment, on ne peut pas dire le contraire. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que c'est un moment unique. À la fois, c'est très lourd. Hein. J'étais surpris par le poids. Je ne pense pas que ce soit normatif, mais c'est quand même très, très lourd. Et puis, bien sûr, ça passe entre les mains.
Et racontez-nous, là, vous êtes à combien de mètres d'altitude? Vous étiez où à peu près, vous en souvenez?
On était en croisière à 40 000 pieds, on était à 12 000 mètres.
Embrasser la Coupe du Monde à 40 000 pieds, peu de gens peuvent s'en targuer.
Oui, c'est vrai, c'est original, mais on fait beaucoup de choses dans des avions qu'on ne peut pas faire au sol, et ça fait partie de ses privilèges. Pour être tout à fait honnête, c'est moi qui ai décidé de faire ce vol, parce que je suis le chef pilote de la flotte Boeing à la France. On a fait quelques photos avant de partir, et puis quelques autographes. Chacun avait amené un maillot de l'équipe de France, a pu se le faire dédicacer par son joueur préféré. Ils sont arrivés avec de la musique, certains, et c'est vrai que c'était très festif. Mais bon, après, je pense que la fatigue l'a emporté.
Un témoignage recueilli donc par Alexandre Demoussac pour RFI sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et après les Champs-Élysées, c'est par le président à l'Élysée donc que les Bleus ont été reçus. Emmanuel Macron a exhorté les champions du monde à ne pas changer. 3000 jeunes venus des clubs formateurs, des joueurs, avaient été invités à rencontrer leurs héros. Dans quelques mois, les joueurs de l'équipe de France reviendront à l'Élysée pour y recevoir la Légion d'honneur. Eux aussi ont été acclamés, les Croates, finalistes de ce mondial défait par la France, qui l'a finalement emporté 4-2 dimanche. Les joueurs sont arrivés à Zagreb en début d'après-midi ce lundi. Mardi matin donc en Australie, accueillis sous les applaudissements et les cris des supporters, Oriane Verdier pour RFI était sur place.
L'avion de l'équipe nationale a tout d'abord paradé durant plus d'une vingtaine de minutes au-dessus de la Croatie. Et puis, ce fut l'explosion de joie. Alan tient dans ses bras sa femme en larmes.
Nous sommes venus accueillir notre équipe nationale. Ils ont réalisé le plus grand succès de notre histoire footballistique. Et ils ont eu la deuxième place. Alors ce n'est pas la première, même s'ils étaient tout prêts. Mais nous sommes tout de même très fiers d'eux. Ils ont uni toute la population, même ceux qui ne s'intéressent pas au football. Tout le monde était vraiment réuni dans les rues pour les soutenir.
Dans la foule, des hommes en habit traditionnel, foulard à fleurs et épée à la ceinture.
Nous représentons la plus vieille armée croate. Elle s'est battue à l'époque contre les Turcs. Ces soldats n'ont jamais perdu une bataille. Nos footballeurs se sont battus dans le stade, comme nous, contre les Turcs. Ils reviennent en vainqueurs. Nous sommes Croates, nous sommes toujours vainqueurs.
Le cortège se rend directement sur la place principale de Zagreb, où des centaines de maillots rouges et blancs attendent pour remercier leurs joueurs d'avoir porté haut les couleurs de la Croatie. Oriane Verdier, Zagreb, RFI.
Donald Trump refuse de condamner Moscou dans l'ingérence de la campagne présidentielle américaine de 2016. Il s'est montré particulièrement conciliant avec son homologue Vladimir Poutine qu'il a rencontré ce lundi ou mardi matin ici en Australie, à Helsinki, pour un sommet historique. Le président américain a nié toute complicité avec les Russes pendant la campagne présidentielle, malgré les discussions qui ont eu lieu quelques jours après que le département américain de la justice ait inculpé 12 espions militaires russes pour avoir piraté les démocrates.
There was no collusion. I didn't know the president. There was nobody to collude with. There was no collusion with the campaign. And every time you hear all of these, you know, 12 and 14, it's stuff that has nothing to do. And frankly, they admit these are not people involved in the campaign. But to the average reader out there, they're saying, well, maybe that does. It doesn't. And even the people involved, some perhaps told misstories, although in one case the FBI said there was no lie. There was no lie. Somebody else said there was. We ran a brilliant campaign, and that's why I'm president. Thank you.
Lors d'une réunion à huis clos qualifiée de constructive, les dirigeants ont également discuté de questions commercial et militaire. Et donc, suite à ça, le président Trump a été critiqué aux États-Unis par les deux côtés de la politique, accusé d'accepter aveuglément les dénégations russes concernant l'ingérence électorale. Certains ont même qualifié sa performance de, je cite, traître. Le député démocrate Eric Swalwell a dit qu'il était temps de mettre fin à ce qu'il appelle la présidence de démolition de M. Trump. On l'écoute.
Yeah, I think it was disgraceful that American flags were on the stage for this summit because an American president was not. The job of the American president is to protect the American people first. That's the first job of the American president. And this president has chosen again to side with Russia, incapable of attributing the last attack against the Russians and incapable of showing the American people that we're going to do something to make sure that this doesn't happen again.
Les partisans républicains du côté du président ont défendu son droit de jeter le doute sur les preuves produites par les agences de renseignement. Un adolescent néo-zélandais de 17 ans, enfermé dans un centre de détention au cœur d'une controverse, aurait été libéré. L'Australie avait été accusée par le gouvernement néo-zélandais d'avoir violé les conventions internationales relatives aux droits de l'enfant en retenant l'adolescent pendant qu'il faisait appel de son expulsion. S'exprimant sur Sky News, Winston Peters, premier ministre néo-zélandais par intérim alors que Jacinda Ardern est en congé de maternité, a salué sa libération.
Diplomatic people have been doing their job. I've myself made representations saying that this is not what we should be putting up with from Australia, that Australia should be abiding by UN conventions. And you say the boy was released. Now he's back being escorted with his family in Sydney.
L'affaire a été mise en évidence par les préoccupations croissantes de la Nouvelle-Zélande à propos des politiques d'expulsion de l'Australie. L'adolescent était détenu au centre d'immigration en transit de Melbourne, confronté à une annulation de visa et à une déportation après avoir été accusé d'avoir commis des crimes non violents. Du coup, le gouvernement fédéral australien a nié que ces politiques d'immigration violent les droits de l'homme. Le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, demande des conseils juridiques pour la libération de l'adolescent. Il a affirmé que les Néo-Zélandais menacés d'expulsion avaient commis des infractions contre des citoyens australiens. Il intervient alors que le Premier ministre, Malcolm Turnbull, défend des chiffres de migration plus serrés. On l'écoute, il s'est exprimé à la radio 3AW.
We are not taking any more than we need. My view on immigration is that it is run in the interests of Australia and Australia alone. It's a talent exercise. I was at the Peter Mac yesterday making some really important announcements about brain cancer and research. You know, there are a lot of foreigners working in there that have come in on skilled visas. We don't want to send them home. So what we've got to do is use our migration program in the same way that a company would use its HR department, I suppose, and make sure you're recruiting the best and the brightest and not recruiting anyone that you don't want or you don't need.
En sport maintenant et en football, Tim Cahill, footballeur des Socceroos, prend sa retraite après 107 matchs et 50 buts avec l'équipe australienne. Il a annoncé sa retraite sur les médias sociaux en disant que rien ne peut décrire ce que signifie représenter son pays. Et le Tour de France, le cycliste australien Richie Porte se dit, je cite, massivement déçu. Son rêve du Tour de France est terminé pour la deuxième année consécutive après s'être fracturé la clavicule. Porte a chuté dans la 9e étape de la tournée dimanche. Le cycliste était en larmes. Il a déclaré à SBS News qu'il a su instantanément à quel point il était gravement blessé. On l'écoute.
As soon as I'd crashed, you know, when it hits you, I mean, cyclists know when they've done their collarbone and I pretty much knew straight away. Even before the doctor had looked at me and told me that it was broken, that I was going to be going home. I mean, it's all the hours out on the bike that people don't see, you know, up and down mountains and training camps and being away from home and family, that's probably the worst thing.
Le Tasmanien s'était également blessé au cours de la 9e étape l'année dernière. Et un rapide coup d'œil sur la météo d'aujourd'hui. À Perth, partiellement nuageux avec 18 degrés. À Adélaïde, quelques averses, du vent et 16 degrés. À Melbourne, conditions similaires avec 16 degrés. À Hobart, de la pluie et du vent aussi, 16 degrés. Canberra, 14 degrés, du soleil. Wollongong, 20 degrés, du soleil également. À Sydney, même temps avec du soleil et 22 degrés. À Newcastle, du soleil aussi, 21 degrés. Brisbane, même condition avec 23 degrés. À Cairns, possibilité d'averse en fin de journée avec 27 degrés. Et enfin, à Darwin, un temps d'été avec 22 degrés. Et puis la bourse, aujourd'hui avec un dollar australien, vous avez 0,72 US dollars, 0,60 euros et 0,53 livres sterling. Un rappel des grands titres de l'actualité de ce mardi 17 juillet. La France, championne du monde de football, 20 ans plus tard, les Bleus ont encore une fois marqué l'histoire. Environ 300 000 personnes étaient au rendez-vous pour voir l'équipe de France et le trophée défiler ce lundi, mardi matin, donc en Australie, sur les Champs-Élysées. Et puis Donald Trump refuse de condamner Moscou dans l'ingérence de la campagne présidentielle américaine de 2016. Il s'est montré particulièrement conciliant avec son homologue Vladimir Poutine, qu'il a rencontré ce lundi ou mardi matin ici en Australie, à Helsinki pour un sommet historique. Et enfin, en Australie, le gouvernement fédéral se défend sur ses politiques d'immigration après la détention très controversée d'un Néo-Zélandais de 17 ans. La Nouvelle-Zélande accuse l'Australie d'avoir violé les conventions internationales relatives aux droits de l'enfant.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.